en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Elle s'appelait Marguerite Jeanne Ghislaine de Klinwerck de Crayancourt. Elle était née à Bruxelles le 8 juin 1903. Elle s'est éteinte à Mount Desert Island aux États-Unis le 17 décembre 1987 à l'âge de 84 ans. Elle était romancière, essayiste, poète et elle compte dans son œuvre une cinquantaine de livres dont des ouvrages de renommée internationale. Un soir, elle a une quinzaine d'années, elle joue avec son père au jeu des anagrammes et trouve le pseudonyme sous lequel elle connaîtra la célébrité. Désormais, elle s'appellera Marguerite Yourcenar. Élue à l'Académie française le 6 mars 1980, elle est reçue parmi ses confrères le 22 janvier 1981. Elle est la première femme à entrer sous la coupole. Voulant rendre hommage à cette grande dame de la littérature, Canal Académie vous propose d'entendre, lu par Fernand Guillot, de larges extraits du discours prononcé par le successeur de Marguerite Yourcenar à l'Académie française, M. Jean-Denis Bredin. Ayant été élu à l'Académie française à la place laissée vacante par le décès de Marguerite Yourcenar, il prononça, comme il est d'usage, l'éloge de son prédécesseur. C'était le 17 mai 1990. Jean-Denis Bredin rappelle d'abord que c'est M. Jean d'Ormesson qui avait activement défendu le choix d'une femme écrivain. Offrir à une femme un fauteuil à l'Académie n'était pas dans les habitudes, loin s'en faut.
La rencontre de votre compagnie et de Marguerite Yourcenar ne fut pas, dit-on, une aventure ordinaire. Rien que deux rendez-vous, le temps de deux après-midi. Vous l'avez invitée à vous rejoindre, vous lui avez tendu la main, elle a cédé, elle est venue, elle a mis sa longue robe et ce grand châle imaginé pour vous plaire, elle vous a parlé. Elle vous a doucement dit qu'elle n'avait rien sollicité, qu'elle succombait à vos séductions. Elle vous a finalement suggéré d'écouter les pierres, aussi bien que vous l'écoutiez, et elle a disparu. Je ne vous cacherai pas, madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Ainsi disait votre confrère Jean d'Ormesson, l'accueillant en votre nom, et l'éloge ne dut pas lui déplaire. Évoquant son « moi » incertain et flottant, Marguerite Yourcenar se décrivait accompagnée sous votre coupole de la troupe invisible des femmes qui eussent dû recevoir avant elle cet honneur au point, disait-elle, qu'elle était tentée de s'effacer pour laisser passer leurs ombres. Pourquoi fut-elle la première à laquelle, selon ses propres mots, vous avançât un fauteuil? Serait-ce parce qu'il lui fut souvent prêté un talent masculin dans un classement arbitraire des sensibilités? Serait-ce parce que la force et le poids de sa culture gréco-latine lui conféraient chez vous une sorte de légitimité?
Marguerite Yourcenar l'a écrit, la réalité d'un écrivain est à chercher dans ses livres. L'œuvre devient vie. Et la vie devient œuvre. Suffirait-il alors de feuilleter l'œuvre de Marguerite Yourcenar pour retrouver sa vie? Elle-même, dans Archives du Nord, a raconté ses origines, sa lignée paternelle, son enfance. Cette petite fille qui vient de naître, par hasard, à Bruxelles, le 8 juin 1903, la vieille dame de Mont-Désert, assise à son bureau, la contemple. Marguerite parle d'elle-même à la troisième personne.
L'enfant, elle, a environ 6 semaines. Comme la plupart des nouveau-nés humains, elle fait l'effet d'un être très vieux et qui va rajeunir. Et en effet, elle est très vieille, soit par le sang et les gènes ancestraux, soit par l'élément inanalysé que par une belle et antique métaphore nous dénommons l'âme. Elle a traversé les siècles. Mais elle n'en sait rien et c'est tant mieux. Sa tête est couverte d'un pelage noir comme le dos d'une souris. Les doigts de ses poings fermés, quand on les déplie, ressemblent aux vrilles délicates des plantes. Ses yeux mirent les choses sans qu'on les ait déjà définies ou nommées pour elle. Elle n'est pour le moment rien qu'être, essence et substance indissolublement mêlées en une union qui va durer sous cette forme environ 3/4 siècle, peut-être même plus. Le temps qu'elle vivra seront les pires de l'histoire. Elle verra au moins 2 guerres dites mondiales et leurs séquelles, d'autres conflits se rallumant çà et là, guerre nationale et guerre civile, guerre de classe et guerre de race, et même sur 1 ou 2 points du monde, par un anachronisme qui prouve que rien ne finit, guerre de religion, chacune ayant en soi ses étincelles pour provoquer la conflagration qui emportera tout. La torture, qu'on croyait reléguée dans un pittoresque Moyen-Âge, redeviendra une réalité. La pullulation de l'humanité dévalorisera l'homme. Des moyens de communication massifs au service d'intérêts plus ou moins camouflés déverseront sur le monde, avec des visions et des bruits fantômes, un opium du peuple plus insidieux qu'aucune religion n'a jamais été accusée d'en répandre. Une fausse abondance dissimulant la croissante érosion des ressources dispensera des nourritures de plus en plus frelatées et des diversements de plus en plus grégaires, panam et circenses, de sociétés qui se croient libres. La vitesse annulant les distances annulera aussi la différence entre les lieux, traînant partout les pèlerins du plaisir vers les mêmes sons et lumières factices, les mêmes monuments, aussi menacé de nos jours que les éléphants et les baleines. Un Parthénon qui s'effrite et qu'on se propose de mettre sous verre, une cathédrale de Strasbourg corrodée, une Giralda sous un ciel qui n'est plus si bleu, une Venise pourrie par les résidus chimiques. Des centaines d'espèces animales qui avaient réussi à survivre depuis la genèse du monde seront en quelques années anéanties pour des motifs de lucre et de brutalité. L'homme arrachera ses propres poumons, les grandes forêts vertes. L'eau, l'air et la protectrice couche d'ozone, prodiges quasi uniques qui ont permis la vie sur Terre, seront souillés et gaspillés. À certaines époques, assure-t-on, Shiva danse sur le monde, abolissant les formes. Ce qui danse aujourd'hui sur le monde est la sottise, la violence et l'avidité de l'homme. L'enfant qui vient d'arriver au Mont Noir est socialement une privilégiée, elle le restera. Elle n'a pas fait, du moins jusqu'ici où j'écris ces lignes, l'expérience du froid et de la faim. Elle n'a pas, du moins jusqu'ici, subit la torture. Elle n'aura pas, sauf au cours de 7 ou 8 ans tout au plus, gagné sa vie au sens monotone et quotidien du terme. Elle n'a pas, comme des millions d'êtres de son temps, été soumise aux corvées concentrationnaires, ni comme d'autres millions qui se croient libres, mise au service de machines qui débitent en série de l'inutile ou du néfaste, des gadgets ou des armements. Elle ne sera guère entravée comme tant de femmes le sont encore de nos jours par sa condition de femme, peut-être parce que l'idée ne lui est pas venue qu'elle dût en être entravée. Des contacts, des exemples, des grâces, qui sait, ou un enchaînement de circonstances qui s'allongent loin derrière elle, lui permettront d'engranger peu à peu une image du monde moins incomplète que celle que sa petite tante Gabrielle de 1866 consignait sur son gros carnet. Elle tombera et se relèvera sur ses genoux écorchés. Elle apprendra non sans effort à se servir de ses propres yeux, puis, comme les plongeurs, à les garder grands ouverts. Elle tentera tant bien que mal de sortir de ce que ses ancêtres appelaient le siècle et que nos contemporains appellent le temps, le seul temps qui compte pour eux, surface agitée sous laquelle se cache l'océan immobile et les courants qui traversent celui-ci. Par ces courants, elle essaiera de se laisser porter. Sa vie personnelle, pour autant que ce terme ait un sens, se déroulera du mieux qu'elle pourra à travers tout cela. Les incidents de cette vie m'intéressent surtout en tant que voie d'accès par lesquelles certaines expériences l'ont atteinte. C'est pour cette raison et pour cette raison seulement que je les consignerai peut-être un jour si le loisir m'en est donné et si l'envie m'en vient. Mais il est trop tôt pour parler d'elle, à supposer qu'on puisse parler sans complaisance et sans erreur de quelqu'un qui nous touche inexplicablement de si près.
Ainsi se termine Archives du Nord, l'ouvrage que Marguerite Yourcenar a consacré à sa lignée paternelle. L'enfance ne dure pas, vient l'adolescence. Marguerite a 16 ans, elle ne cesse d'apprendre, de lire, de regarder, de voyager.
En 1919, Mademoiselle de Crayencourt a passé son baccalauréat à Nice, sans avoir mis les pieds à l'école. Écoutons cette bachelière parler d'elle. Et là, se regardant dans la glace, l'impression d'être quelqu'un d'important, impression qui ne lui passera guère. Et là aussi, dira-t-elle, une vague idée de la gloire. Que faire, sinon tenter de devenir écrivain? Son père, qui traverse des difficultés d'argent, trouve les 3 000 francs qu'il faut pour publier à compte d'auteur un premier recueil de poèmes, « Le jardin des chimères », que Marguerite dira plus tard long et ennuyeux. Puis un second, « Les dieux ne sont pas morts », plus mauvais encore, affirmera-t-elle. Il lui faudrait un pseudonyme. Avec son père, elle s'amuse un soir à faire des anagrammes du nom de Crayencourt, déplaçant les mots et les lettres sur une feuille de papier. L'Y s'installe naturellement en tête. Marguerite Yourcenar entrait en littérature. Le 12 janvier 1929, son père, Michel de Crayencourt, meurt dans une clinique de Lausanne. Regardons cette jeune femme qui le pleure, qui l'oubliera, qui le retrouvera quand elle en fera le personnage essentiel du labyrinthe du monde. Elle est élégamment vêtue, déjà elle affectionne les châles. Les cheveux sont maintenant coupés courts, le regard a gagné en mystère, un fin sourire est venu, énigmatique. Elle est belle. Pendant 10 ans, elle a voyagé et elle a écrit, car l'écriture a maintenant conquis sa vie. Elle a parcouru l'Italie, rêvé sur les ruines, aperçu le fascisme naissant. Elle a regardé vers l'Inde, traduit des contes orientaux, publié des poèmes. Elle a entrepris un immense roman qui devait traverser les siècles. En quelques années, elle a rédigé des centaines de pages qu'elle jettera pour la plupart. Tandis qu'elle soignait son père en Suisse, elle a écrit « Alexis » ou « Le traité du vain combat ». Étrange récit où se reconnaît l'influence de Gide. En 1931, elle publie « La nouvelle Eurydice », un roman lourdement littéraire, dira-t-elle, et elle le qualifiera de véritable gâchis. En 1934, dans « Denier du rêve », récit d'un attentat manqué contre Mussolini, elle explore son talent à mêler l'histoire et les mythes, ici l'anarchisme italien et la légende grecque. Déjà cet ouvrage exprime quelques-uns des thèmes qui deviendront ses obsessions, son refus de toute servitude, son dédain du couple conjugal pris dans le tissu des banales misères, et sa curiosité de la mort. Commencé à Constantinople, achevé à Athènes en 1936, son livre « Feu » marque sans doute une rupture dans sa vie. Elle, d'ordinaire si discrète sur sa vie privée, l'écrira 30 ans plus tard. Ce fut le produit d'une crise passionnelle, d'un grand amour pour un homme qui ne l'aima pas. L'ouvrage rassemble, à travers les mythes de la Grèce antique, auxquels est étrangement jointe Marie-Madeleine, différents symboles de l'amour total, de l'amour fou. Entre les poèmes en prose, vrais exercices de style, la jeune femme blessée laisse éclater sa révolte avec une brutalité qui la révèle. L'amour insensé, l'amour éloquent, l'amour bavard, l'amour à la française, comme elle dira, Marguerite Yourcenar ne cessera pas, désormais, de s'en méfier. Peut-être les Nouvelles Orientales, parues en 1938, disent-elles un certain apaisement. Les récits pris à la Grèce, aux Balkans, à l'Asie, continue de mêler les mythes à la vie. Dès ses 20 ans, Marguerite Yourcenar a découvert la littérature orientale elle y cherchera, dira-t-elle, mieux que dans nos livres, une intelligence subtile des rapports entre les hommes et les femmes, un sens aigu du flottement des choses, du passage du temps. Écrit en quelques semaines entre Capri et Sorrente, le coup de grâce éclaire l'autre face de Marguerite Yourcenar, sa part de violence. De nouveau, comme dans « Denier du rêve », l'histoire lui fournit prétexte. Ce sont cette fois-ci les guerres baltes et la lutte anti-bolchevique. Le bruit des bottes du nazisme, la guerre, surprendra Marguerite Yourcenar en Suisse au hasard de ses voyages. Ce qui vient pour elle, c'est une longue aventure, la seule continuité de sa vie. Une aventure qui commence par le mot « pollué d'amour », comme elle dira, qui se continuera dans le partage quotidien des misères et des joies, qui s'achèvera au même cimetière. Grace Frick, une Américaine de son âge, elle l'a connue en février 1937. Ensemble, elles ont parcouru l'Europe, passé un hiver aux États-Unis, où Marguerite Yourcenar a découvert les Negro Spirituals qu'elle traduira. « Un grand moment de l'émotion humaine », dira-t-elle. Marguerite a promis à Grace de la rejoindre en Amérique et ce n'est pas la guerre qui la ferait renoncer. Elle s'embarque à Bordeaux en octobre 1939. Pour un hiver, pour une vie.
Pendant 10 ans, dira Marguerite Yourcenar, j'ai abandonné l'idée d'écrire. Se trouvant en effet dans l'obligation de travailler pour gagner sa vie, elle devint professeure de français dans la banlieue de New York. Elle écrit tout de même un peu, des traductions, des pièces de théâtre, des poèmes. Lorsqu'elle décide avec, je cite, la personne avec qui elle partageait sa maison, Grace Frick, d'acheter une petite maison dans l'île de Mont-Désert, dans l'état du Maine, Marguerite a 40 ans. Elle sait ce qu'elle aime, le silence, le cri des oiseaux, la sirène des bateaux, le brouillard, le bois, les chevaux, les gens de là-bas, bref, ce pays de nulle part. Elle l'aimera tellement qu'elle le quittera de temps à autre, bien sûr, pour voyager, mais elle y reviendra toujours, elle s'y fixera et y mourra. Mais bientôt, l'écriture la rattrape.
Marguerite Yourcenar croit au hasard. C'est le hasard qui va donner vie aux mémoires d'Adrien. En janvier 1949, elle reçoit de Lausanne 2 ou 3 malles qui contiennent de vieux vêtements, de vieux papiers. Elle commence à tout brûler et s'arrête sur un fragment d'Adrien, début d'une version vieille de 10 ans, la 3e qu'elle eut rédigée. Mais à ce moment de sa vie, cette nouvelle rencontre est décisive. Et pendant 3 années, lisant une foule de livres, s'enfermant dans les bibliothèques, renonçant à tout autre travail, elle écrit les mémoires d'Adrien. Publié en novembre 1951, le livre connaît un grand succès. La voici en quelques mois transformée en écrivain célèbre. Pourquoi Adrien ? Elle s'en est expliquée. Cet empereur qui intervient à un moment exceptionnel de l'histoire de Rome est intelligent en tout. Il sert les arts, il améliore la condition de l'esclave, et porté par Marguerite Yourcenar, il anticipe de plusieurs siècles. Il rêve d'une juste répartition des biens. Il protège les arbres menacés. Il fait réduire le nombre des attelages qui encombrent les rues de Rome. Ainsi, l'empereur romain sort-il de son temps pour incarner le souverain très éclairé que Marguerite Yourcenar voudrait au monde. Mais en même temps, il est proche d'elle et des personnages auxquels elle a donné vie. Pour Adrien comme pour Marguerite, tout ce qui est humain vient d'Athènes. « C'est en grec que j'aurai pensé et vécu », dit-il. Et Marguerite Yourcenar a d'autres raisons encore d'aimer cet Adrien. Il partage cette sagesse qu'elle voudrait se donner. À 60 ans, il commence à apercevoir le profil de sa mort. Regardant derrière lui, il juge qu'il a utilisé de son mieux ses vertus, qu'il a tiré parti de ses vices. Il est heureux d'avoir aimé la beauté, la volupté, et même les vérités toutes simples de la débauche. Il n'a pas d'enfant, mais qu'importe. Ce n'est pas par le sang que s'établit la vraie continuité humaine. Il sait qu'il va bientôt mourir, que sa petite âme, tendre et flottante, va devoir renoncer au jeu d'autrefois. Il tâchera d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Ce message, il est désormais celui qu'Adrien et Marguerite transmettront ensemble.
À Mont-Désert, dans sa petite plaisance, Madame Yourcenar a un petit bureau sur lequel est posée sa machine à écrire. Elle est maintenant un auteur internationalement célèbre. Elle a 50 ans. Un visage ridé, exprimant une souveraineté qui tient à distance. Elle a reçu des prix, dont celui de l'Académie française. Elle ne cesse d'écrire des romans, des pièces de théâtre, des essais. Elle donne des conférences. Elle est partout parce qu'on la réclame de partout. Mais voilà qu'un homme entre dans sa vie. Un homme, non, plus exactement un personnage masculin. Il s'appelle Zénon. Il ne la quittera plus.
L'œuvre au noir fut un long enfantement. La lointaine origine en fut une lecture dans la bibliothèque paternelle. Zénon, dans le grand projet de sa jeunesse, n'eût été qu'un épisode d'immenses archives du Nord. Mais en 1962, la vie de Zénon commence à devenir une œuvre autonome dont Marguerite Yourcenar poursuit la rédaction à travers tous ses voyages. Bientôt, elle s'y consacre totalement. L'œuvre au noir fut publiée à Paris en mai 1968 et le moment ne lui déplut pas. « Je tiens Zénon par la main, dira-t-elle, et quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'à ma mort, il sera près de moi. De sa naissance illégitime à Bruges jusqu'à la mort qu'il choisit de se donner dans une prison de sa ville natale, Zénon, médecin, alchimiste, philosophe, et la savante invention d'un homme nouveau, enfant de la Réforme et de la Renaissance, seulement conduit par l'intelligence et la raison, un homme libre, dont Marguerite Yourcenar a voulu nous léguer le modèle. Devenir homme, voilà tout l'effort de Zénon. Zénon a aimé les jeunes femmes et les jeunes gens, et c'est maintenant sans eux qu'il se sent vraiment libre. Zénon ne cesse de penser, mais l'acte de penser l'intéresse maintenant plus que les douteux produits de la pensée elle-même. Zénon n'a plus besoin de sa mémoire pour connaître le monde, car le souvenir, écrit-elle, n'est plus pour lui qu'un regard posé de temps en temps sur des êtres devenus intérieurs et qui ne dépendent plus de la mémoire pour continuer d'exister. Et quand vient son procès, pour lui l'égal d'une partie de cartes, Zénon le joue les yeux ouverts, comme l'eût fait Adrien, sans mentir, car il a perdu toute aptitude au mensonge, sans illusion, car il entend déjà l'immense rumeur de la vie en fuite. Reste à vivre la mort qu'il a choisie. Rien qu'un étrange quart d'heure, il était libre. Pour ce livre le plus important de son œuvre, dira-t-elle, Marguerite Yourcenar fut comblée d'éloges couvertes d'honneur. Elle est partout, en Europe, aux États-Unis, partout célébrée. Mais voici qu'à partir de 1971, elle semble apaiser son humeur vagabonde et pendant 8 années, elle passera la plus grande part de son temps dans son île. C'est qu'elle a repris le projet de son adolescence. Ce labyrinthe du monde, mémoire d'un genre nouveau, où l'auteur explore la somme des vies dont il est le résultat, car ce bout de chair rose pleurant dans un berceau bleu, venu un certain lundi de l'année 1903, il n'est que l'aboutissement d'une longue histoire, celle de ses aïeux, celle des terres où ils ont vécu, des civilisations qui les ont formées. L'histoire, a-t-elle écrit, devient comparable à une immense circulation sanguine. Elle va vers Marguerite de Crayancourt, l'héritière des siècles, des lieux, des gens. Mais elle remonte aussi de cet écrivain qui lui restitue la vie et lui donne un sens. Marguerite Yourcenar n'achèvera pas le troisième livre. Quoi, l'éternité ? Celui qui commençait à parler d'elle. Mais ce n'était pas l'essentiel. Les incidents de cette vie, a-t-elle dit, m'intéressent en tant que voie d'accès. Tous ces gens avaient été son chemin. Elle était devenue le leur.
Si Marguerite Yourcenar ne quitte plus son île ces années-là, sauf pour de rares voyages, c'est aussi qu'elle y soutient dans un long combat contre la mort celle qui fut sa compagne de 40 années. Grace Frick meurt à Petite Plaisance le 18 novembre 1979. Que reste-t-il à Marguerite sinon à vieillir, aussi bien qu'il se peut, et bien sûr, à écrire. À écrire et à profiter de quelques bonheurs encore, de quelques honneurs aussi.
Vous l'avez reçue, messieurs, le 22 janvier 1981, et elle s'en est allée. Elle est partie pour le sud du Maroc. Elle a fait en quelques semaines plus de voyages que la plupart en une vie. Et partout elle écrit. Elle écrit sous les arbres, elle écrit dans les bateaux, elle écrit dans les aéroports, les feuilles posées sur les genoux. Elle achève Un homme obscur, portrait d'un homme inculte qui se méfie des livres et pense sans l'intermédiaire des mots, le contraire de Marguerite Yourcenar. Mais ce Nathanaël la rejoint pour vivre comme elle, sans bagage, et pour lever sur le monde le même regard clair. Elle écrit une belle matinée, rêve d'un enfant qui fait le pitre et qui, déguisé en acteur, vit d'avance toutes les vies. Et comme elle partage à certains moments le pessimisme de Mishima, qui ne voulait plus d'un monde d'où l'argent avait chassé l'esprit, elle rédige Mishima ou la vision du vide. Elle contemple comme fascinée le théâtre du suicide rituel. Elle regarde le jeune et beau Morita qui s'essaie à décapiter Mishima. Elle suit des yeux les deux têtes qui roulent sur le tapis. Deux épaves roulées par la rivière de l'action. Conduire sa vie, décider de sa mort, voilà au moins les privilèges de l'homme libre. Marguerite Yourcenar n'arrête plus de voyager, de parler d'elle, de laisser parler d'elle, d'empêcher que l'on parle d'elle. Que veut-elle désormais? Cette star de l'intelligence et de la sagesse, dont les livres sont lus partout dans le monde et les mots religieusement écoutés. Elle veut sauver la vie, lutter contre le surpeuplement de la planète. Elle veut que l'homme retrouve l'idée de sa continuité. Elle veut se battre contre la sottise et l'idée folle que chacun peut, après soi, laisser la place au chaos. Elle voudrait que l'intelligence et la compassion parcourent le monde et la sagesse aussi. Elle voudrait mourir lentement, que la mort s'insère peu à peu en elle. Elle voudrait avoir le temps de revoir les jacinthes du Mont Noir, les dunes des Flandres, les longues coulées de glaciers sur les rochers de Mont Désert, et Olympe à midi, et le Cap Sounion au couchant, et avoir encore le temps d'entendre la messe de résurrection dans un village au bord de la mer Égée. Et le temps lui manqua. Elle est morte. Le 17 décembre 1987, à 21h30, à l'hôpital de Bear Harbor. Elle put voir encore de la fenêtre de sa chambre la neige qui tombait et recouvrait Mont Désert. Adrien et Zénon lui tinrent-ils la main. À l'église proche, un mois plus tard, un office fut célébré dont elle avait réglé chaque moment. Le pasteur lut des textes catholiques et des textes bouddhiques, dont un poème religieux. Ne me demandez plus rien, mais prêtez l'oreille aux voix des pins et des cèdres quand le vent se tait. La lecture d'une phrase de Michel de Crayancourt acheva le service. C'était le 16 janvier, Le soleil faisait briller la neige.
Marguerite Yourcenar fut mise en terre au petit cimetière de Sommesville, entre les pins et la mer. Ses cendres avaient été placées dans un châle blanc, puis dans un panier indien recouvert d'un autre châle et enveloppé de l'étole blanche qu'elle portait le jour de sa réception à l'Académie française. Sous un chêne, deux petites dalles noires, l'une est celle de Grace Frick, sur l'autre on peut lire Marguerite Yourcenar, 1903-1987, et cette inscription, prise dans l'œuvre noire, plaise à celui qui est, peut-être de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute la vie. Arrivé à ce moment de son éloge, M. Jean-Denis Bredin a choisi d'évoquer pour conclure Marguerite Yourcenar, l'écrivain. Voici donc les derniers paragraphes de ce discours qui se fait vibrant hommage.
Grand écrivain, que disent ces mots et quel temps permettrait d'en juger? Mais écrivain, à coup sûr. Elle a écrit comme elle faisait son pain, car elle faisait son pain. Il y a un moment, disait-elle, où on sent qu'il ne faut plus pétrir. Un moment d'émerveillement. Elle a écrit pour être émerveillée, pour inventer et retrouver les vrais compagnons de sa vie, pour entendre battre son cœur. Elle aimait écrire, elle aimait son œuvre, et elle aimait que son œuvre fût aimée. Mais elle ne se faisait guère d'illusions sur le monde des mots couchés dans les livres, sur le sort de ce nom, Marguerite Yourcenar, dans les annuaires de la postérité. Elle savait, comme Adrien, que la mémoire des hommes est un cimetière abandonné, que les siècles ne rendent pas plus justice aux écrivains qu'à quiconque, qu'ils dressent des statues à des usurpateurs et qu'ils enfouissent des génies que les hasards ont recouverts. L'histoire de la littérature n'est pas différente de l'histoire des hommes. On peut lire sur les tombes des noms justement célébrés. On peut aussi y visiter la fosse commune de nos erreurs. Commençant ici son discours sur Roger Caillois, Marguerite Yourcenar assurait que parmi les privilèges qui lui eurent, elle n'en a pas manqué. Elle n'en connaissait pas de plus haut que celui d'avoir à faire l'éloge d'un grand esprit. M'accordant de lui succéder, « Vous n'avez pas fait, messieurs, que m'attribuer un tel privilège. Vous m'avez donné le bonheur de vivre quelques mois avec elle, de le croire au moins, de déjeuner avec elle dans sa cuisine de mon désert, parmi les bocaux alignés, les coquillages épars et tous les animaux du monde assemblés en miniature sur un plateau, de grimper derrière elle les trois escaliers aux marches devenues trop hautes, les dernières années, pour la conduire à sa chambre d'où elle voyait les arbres, d'où elle devinait la mer, d'où elle allait au bout du monde et plus loin. Et j'ai appris à comprendre pourquoi vous l'aviez reçue parmi vous et pourquoi, même partie, même absente, elle fut, elle reste des vôtres. Dans son œuvre, dans sa vie, elle a infatigablement défendu ce qui donne à l'aventure humaine, comme elle disait, son plus grand espace, sa plus haute dignité. Elle a voulu que chaque vie fût une conquête de la liberté. Libre de corps, libre les mœurs, libre l'intelligence, libre les curiosités, les passions et les indifférences. Elle a lucidement observé l'éphémère, le tragique de chaque destin. Elle a mesuré nos infirmités. Elle a tenté de faire le tour de nos prisons, de la sienne en tout cas. Elle a vu l'homme détruire l'homme par sa férocité et aussi par son progrès. Et pourtant, elle a merveilleusement dit, répété, jusqu'au dernier jour, qu'il nous fallait toujours regarder, toujours repartir, tout faire et dire pour laisser le monde plus beau et plus intelligent, et encore qu'il ne faut jamais rien clore, ni sa pensée, ni sa porte, et que notre aventure est de nous rendre chaque jour plus libres de chacun et plus respectueux de chacun. Elle a plus fait que le dire, elle a porté témoignage. Et il me semble que ce témoignage, il est celui que vous tentez de porter vous-même à travers vos différences et vos contradictions. Soyez pour vous-même une lampe. Soyez-le pour vous, et s'il se peut, pour ceux que vous rencontrerez. Elle a tant aimé la liberté et la lumière, toute liberté, toute lumière, même reçue de la souffrance. Souvenez-vous de ce cri de sa jeunesse, « Solitude, je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils vivent, je n'aime pas comme ils aiment, je mourrai comme ils meurent. » Et ce fut son destin.
Les textes que vous venez d'entendre, lus par Fernand Guillot, reprenaient de larges extraits du discours prononcé par M. Jean-Denis Bredin, lorsque, succédant à Marguerite Yourcenar à l'Académie française, il fut reçu sous la coupole le jeudi 17 mai 1990.